Voici donc, comme promis la semaine dernière, l'entretien avec Jean-Claude Brissot, dont vous avez vu, si vous m'avez écouté, les ombres, vendredi dernier, donc il y a 2 jours, sur TF1 à 20h30 dans la série La télévision de chambre. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, nous essaierons, Jean-Claude Brissot et moi, de ne pas trop vous exclure de notre dialogue. Mais de toute façon, ce que vous allez nous dire, Jean-Claude Brissot, c'est tout d'abord un peu votre histoire, parce que c'est une histoire totalement singulière. Vous n'avez suivi aucune des filières qui mènent normalement à la réalisation de cinéma ou de télévision.
Non. Non.
Alors, vous pouvez dire d'où vous êtes parti ?
Oui, effectivement, je ne suis absolument pas... Je n'ai rien à voir avec les milieux cinématographiques. Moi, j'étais enseignant, j'ai été instituteur. À l'heure actuelle, je suis professeur de français dans un CES à Aubervilliers. Et j'avais fait des films d'amateurs. Et en 1975, lorsque les caméras Super 8 sonores sont sorties, j'avais réalisé un film qui durait 1h30 avec des jeunes gens. J'avais écrit le dialogue et le film a été projeté tout à fait par hasard dans un festival de films amateurs à l'Olympique. Éric Rohmer était dans la salle. Il avait beaucoup aimé le film. On s'est rencontrés, j'en ai fait un autre. Je lui ai montré d'autres films que j'avais faits. C'est comme ça que nous sommes connus. J'en ai réalisé un second, cette fois-ci en 16 mm, un petit peu plus tard, avec très très peu de moyens et avec 3000 mètres de pellicule de l'INA et de l'argent que j'ai mis moi-même. Et puis à l'INA, on m'a confié la réalisation de 2 choses. D'une part, d'un conte moderne qui s'appelle L'Échangeur, qui dure 25 minutes. D'autre part,
qui n'a pas encore été diffusé.
Qui va être diffusé le 17 mai. Et à la suite de ça, quand les gens de l'INA ont vu le film, ils m'ont confié la réalisation des ombres qui inauguraient la série. L'émission que j'ai faite était le prototype.
Bien, alors, Jean-Claude Brissot, il y a quand même une chose qui frappe aussitôt, pour ceux qui ont eu votre film de vendredi dernier, et pour moi qui ai eu la chance de voir votre film en 16 mm, qui était un long métrage,
oui.
C'est ce qui frappe, mais presque d'une manière agressive quand on voit votre travail, c'est à quel point vous venez de la réalité. Enfin, de cette réalité que nous considérons, nous, comme un peu abstraite, qui est la réalité de la banlieue parisienne, des CES, des HLM et des appartements à l'intérieur des HLM. À quel point, moi je me souviens, ça c'est un film que personne n'a pu voir encore dans le public et qui est un film magnifique, à cause de ça, le premier plan de ce film, c'était à l'intérieur d'une classe. D'ailleurs, on n'entrevoit le professeur qu'au bout du travelling, autant que je me souvienne. Arrêtez-moi si je me trompe.
C'est exact.
Et à l'intérieur d'une classe qui est très exactement une sorte de marché bizarre où il se passe absolument tout, y compris d'ailleurs des gens qui apprennent, parce qu'il y en a quelques-uns, sauf de l'enseignement.
Oui, excusez-moi de vous interrompre, mais ça, c'est une des choses qui m'a... Une des choses qui m'a beaucoup frappé en pénétrant au fur et à mesure des mois dans le monde du cinéma, c'est que celui-ci est complètement coupé des réalités qui ne sont pas les siennes.
Il y a
un décalage de plus évident qu'il est difficile d'analyser. Mais je vais vous donner un exemple très frappant. Lorsque j'ai réalisé Les Contes modernes, l'histoire était la suivante. Les producteurs ont vu le film que vous évoquez qui s'appelle La vie comme ça.
Qui s'appelle comment, rappelez-moi le titre.
La vie comme ça.
Oui, la vie
et ils ont
ça,
eu envie que je refasse, concernant l'enfance, une histoire un petit peu dans ce genre-là. C'était d'ailleurs pas très difficile à faire, parce qu'il suffisait que je regarde ce qui se passait autour de moi. Mais en le réécrivant, sous une forme qui soit acceptable pour le public d'une part, et qui en plus puisse l'intéresser. Or, j'ai inscrit une petite séquence, je l'ai fait un petit peu exprès, une séquence de 3 minutes, dans laquelle on voit le niveau scolaire réel, des élèves de 5e, 4e, j'ai d'ailleurs, dans le film, été obligé de tricher et d'abaisser l'âge parce que sinon personne n'aurait voulu me croire. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit. En effet, quand j'ai écrit cette première séquence qui durait 3 minutes, lorsque les producteurs l'ont lu, ils m'ont dit « Oh, c'est pas possible, tu exagères, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu fais ça pour créer du scandale facile. » Quand ils sont venus, j'ai maintenu, quand ils sont venus sur le tournage et qu'ils ont vu, le producteur qui était là m'a dit « J'ai été bouleversé par ce que j'ai vu. »
Dans le tournage, c'est-à-dire
dans une véritable école, c'était avec mes propres élèves, c'était que j'ai été amené à utiliser comme ça. Absolument, oui. Alors, en ce qui concerne, par exemple, le film qui s'appelait La vie comme ça, c'est exact qu'on m'a dit pendant des années également que ce que je mettais, les scènes de violence que j'ai pu mettre, étaient... ça, c'est le monde du cinéma qui m'a dit ça. C'était... Il n'y a pas eux, pas seulement eux. C'était mes fantasmes que j'avais collés dans le film, alors qu'en fait, tout est rigoureusement authentique.
Ouais, non, oui, mais alors, avec quand même, non. Ah non, alors, c'est là qu'on va entrer dans vos films, dans La vie comme ça, mais aussi bien dans Les ombres. C'est... La vie comme ça, tout est vrai. Vous avez ramassé un certain nombre d'événements qui, dans la vie telle qu'elle se déroule, ne se déroulent qu'à des dates quand même relativement espacées. Dans
c'est
votre
exact.
Film, en l'espace d'une heure et demie, tout était ramassé, mais on sent avec une espèce de malice de votre part, de manière à créer dans l'esprit du spectateur une sorte de doute sur la véracité de ce qui
c'est
était
exact.
Raconté.
C'est exact. Ce que vous dites est tout à fait exact, mais le problème, si vous voulez, le problème auquel j'étais confronté est double. Le premier, c'est que quand on fait des films un petit peu sur la réalité, en général, on écrit des jolis contes de fées. C'est-à-dire qu'on part de la réalité, on les transforme en contes de fées.
Je vais vous donner un exemple. C'est ce qu'on appelle
transposer. Oui, enfin, oui et non. Je vais vous donner, je vois un film comme, j'en ai deux là, qui me viennent à l'esprit, Kramer contre Kramer, et un autre film qui s'appelait Un mauvais fils, ou les films de Claude Sautet, qui d'ailleurs sont faits par d'excellents professionnels qui connaissent bien leur boulot. Mais ils partent. Ils veulent donner l'impression au public que ce qu'ils traitent est la réalité, mais en fait, ils opèrent une transformation qui en fait un joli conte de fées sans que le spectateur le voie. Mais il faut dire aussi que le spectateur, en général, n'aime pas beaucoup qu'on lui renvoie une image déplaisante. Un des problèmes qui se posait à moi était le suivant. Quand j'ai vu que la réalité qui était quotidienne et qui était la mienne serait, aurait du mal à passer parce que les gens croiraient jamais ce qui était dit. D'une part, d'autre part, une des choses qui m'intéresse, c'est d'arriver à renvoyer une image pas trop déformante et de pas faire de conte de fées à partir de ce qui est fait. D'autre part, enfin, à ce qu'on ne puisse pas dire ah oui, le méchant c'est l'autre, mais je voulais renvoyer le spectateur, lui renvoyer une image peut-être déplaisante de lui-même. Je me suis dit, compte tenu de tout ça, il faut bien faire passer la salade. Autrement dit, j'ai essayé de trouver un style qui soit tel qu'on ne sache pas trop au début, qui permette une double lecture, c'est-à-dire une lecture réaliste et une lecture fantastique en même temps, de telle sorte qu'on ne sache pas exactement. Il y a un petit côté Alice au Pays des Merveilles, si vous voulez, qui permettra au spectateur de fuir en se disant c'est Alice au Pays des Merveilles, mais quelque part en même temps de dire non, c'est réaliste, ça se passe vraiment. Enfin, je ne sais pas si j'ai réussi, mais c'était mon propos.
Mais ça, on va en parler très longuement en parlant des ombres. Effectivement, c'est très réussi. Alors, aussitôt, alors, il me vient une question qui est une question de cinéphile. C'est-à-dire, bon, vous ne venez pas du tout des milieux du cinéma.
Non.
Et c'est votre force, d'une certaine façon. Vous venez du lieu même où se déroule l'action de vos films.
Oui.
Et des gens même où se déroulent, des gens même qui vivent l'action de vos films. Bien. Mais il y a quand même une chose qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que vous avez aimé le cinéma depuis votre enfance et quels sont les films que vous avez aimés ?
Ah. Enfin, moi, j'étais d'origine très, très populaire. Ma mère était femme de ménage. Par contre, on allait au cinéma très, très souvent. Quand j'étais enfant, je vais bientôt avoir 38 ans. Quand j'étais enfant, j'avais la chance d'habiter Paris et j'allais au
dans
cinéma.
Dans quel quartier ?
J'habitais dans le 18e, j'habitais au métro Guy Môquet. J'habitais dans ce qu'on appelait à l'époque les maisons de la ville, c'est-à-dire les anciens, les HLM de l'époque qui s'appelaient des HBM. Et régulièrement, avec les copains, le jeudi et puis le soir, j'allais au cinéma. J'allais voir tous les films américains qui sortaient et puis les autres, mais surtout les films américains. Et ensuite, à partir de 14-15 ans, j'ai lu les cahiers du cinéma. Au début, j'y comprenais rien, mais j'aimais bien quand même. Et j'ai continué à aller au cinéma. Il fut une époque, quand j'avais 18
mais
ans...
Mais alors, en choisissant en fonction de ce que disaient les cahiers.
J'allais tout voir.
Vous allez tout voir, c'est ça.
J'allais tout voir, je me forçais à aller tout voir. Entre autres, pour me dire, quand le film ne me plaisait pas, quand il n'était pas bien, pourquoi est-ce qu'il n'est pas bien. Et j'ai tout vu. Maintenant, je ne peux plus, j'ai plus le temps, mais à l'époque, je voyais tout.
Mais vous alliez à la Cinémathèque aussi, vous avez
j'allais
vu
au Cinémathèque, j'allais, si vous voulez, j'allais...
Non, parce qu'il y a quand même quelqu'un auquel on pense, c'est Stroheim, d'une certaine façon, c'est-à-dire ce désir de vérité absolument impérieux, lié tout de même à un passage à l'excès qui fait que on entre dans une sorte de fantastique, comme vous dites, moi, on pense à des gens comme ça, en tout cas, aux naturalistes, c'est-à-dire aux poètes de la vérité, quoi.
Oui, mais vous savez, moi, mon origine, elle n'était pas là. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, comme j'étais originaire de ces milieux-là, moi, ce qui m'intéressait, c'était davantage le cinéma de rêve.
Absolument.
À dire vrai, si vous voulez, la raison du premier film, pas Super 8 que j'ai fait, mais celui-là, La vie comme ça, était autre. Quand j'ai vu la réalité, le monde a changé énormément en l'espace d'une vingtaine d'années. Quand j'ai été confronté à ça, j'ai vu, si vous voulez, je me suis dit, j'avais commencé quand même à connaître un tout petit peu les milieux de cinéma, puisque j'avais rencontré Romère et un petit peu les gens qui étaient autour de lui, mais lui, il a ce grand avantage de vouloir connaître ce qui se passe dans le monde qui n'est pas le sien. Je me rappelle, lorsqu'il avait lu le scénario à un moment, qu'il m'avait dit qu'il ne voulait pas trop croire ce que je racontais, il m'a suivi pendant toute une journée, et on est rentré dans les familles des gens, ce qui veut dire qu'il est préoccupé, lui, de cette réalité-là. Or, moi, si vous voulez, quand j'ai vu cet état de violence quotidienne, et quand j'ai vu, si vous voulez, une situation extrêmement complexe, que personne ne veut voir, de la droite à la gauche... Les ennuis les plus fréquents que j'ai rencontrés, je ne m'y attendais pas, c'est parfois à gauche, alors que le film était plutôt à gauche. Mais
vous parlez de La vie comme ça.
Je parle de La vie comme ça. Je me suis dit que à l'époque, j'avais affaire à des problèmes de violence graves chez des mômes de 13-14 ans. Mais quand je dis de violence grave, ça pouvait aller parfois jusqu'au meurtre. Et quand je dis parfois, c'est presque un euphémisme. Je me suis dit, compte tenu des réalités, que quand bien même la gauche arrivera au pouvoir, c'est pas par un coup de baguette magique que les choses allaient changer. Et que ces enfants-là qui se tapaient dessus de HLM à HLM, les gens qui étaient confrontés à cette réalité très noire, personne n'en parlait autour d'eux, mais... Cette violence était circonscrite à leur petit coin, mais qu'ils allaient grandir et qu'ils allaient se répandre un petit peu partout, ce qui commence à se passer. Maintenant, on commence à m'écouter d'une façon un petit peu différente, parce que les problèmes, à l'époque, on me disait que je traitais des fantasmes, maintenant, ça se répand partout. Et ça va, à mon avis, s'accentuer, dans la mesure où, pour l'instant, d'une part, les problèmes sont complexes, il n'y a pas d'explication simpliste, et que, à mon avis, les gens qui ont des responsabilités sont totalement à côté de la plaque, et que, du même coup, ils auront du mal à arriver à cerner le problème. En effet, pour faire quelque chose, encore faut-il arriver à pouvoir mettre le doigt sur les éléments qui sont déterminants. Je vous avoue, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, personne n'a envie et personne ne peut mettre le doigt dessus. J'avais déjà ce sentiment, et c'est pour ça que j'ai fait le film, entre autres.
En vous écoutant, je comprends qu'en réalité, vous avez été requis par la réalité pour... On a l'impression que c'est la réalité elle-même qui vous a obligé à la peindre et à la filmer.
C'est exact. La seconde, ensuite, quand j'ai un petit peu changé, j'ai vu en pénétrant... si vous voulez, il s'est produit un second facteur, enfin une seconde chose. Au départ, je m'étais dit, le cinéma, et français en particulier, a beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années. Avant, le cinéma, il y a 20 et 30 ans, 40 ans, était un cinéma populaire. Maintenant, c'est essentiellement un cinéma bourgeois, fait pour la bourgeoisie, par la bourgeoisie et pour elle. Je m'étais dit, c'était essentiellement... au fond, si on ne traite pas d'autres problèmes, c'est parce que le public qui va au cinéma... En dehors des jeunes de 15 à 25 ans, c'est un public essentiellement bourgeois, peu ouvrier et pour cause. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas uniquement ça, c'est parce que la plupart des gens du monde du cinéma ignorent complètement ce qui n'est pas son monde. Et à dire vrai, ça m'a un petit peu intéressé de parler d'un monde dont on n'avait pas l'habitude de parler habituellement, ou plus exactement, quand on en parle, c'est au travers du filtre, d'un filtre idéologique bien précis. Et moi, je me sais qu'on m'avait dit un moment, une des choses qui est intéressante là-dedans, c'est que t'as pas fait des tracts. Et c'est un fait que je m'y refusais absolument.
C'est ce qui vous mettait dans un état... Moi, ça, j'avoue, quand j'ai vu votre premier film, j'ai été dans un état second. Mais alors, pour Les Ombres, là, il me semble être entré plus... Non, peut-être parce que j'avais vu le précédent. Je suis entré tout à fait normalement, disons, dans le film, en épousant, d'ailleurs, votre point de vue. Parce que, alors là, votre film... apparaît, alors pour ceux qui l'ont vu, mais j'espère d'ailleurs qu'il sera rediffusé d'une manière ou d'une autre, apparaît complètement à contre-courant de tous ceux qui se nourrissent d'eux-mêmes. Vous, vous nourrissez manifestement du dehors. Et il n'y a pas 36 cinéastes qui fonctionnent comme ça. Je comprends que ça a intéressé Romère, il n'y en a pas tellement d'autres, qui est le désir de peindre des choses et des gens avec qui ils n'ont pas du tout de relation évidente au départ. Hein, c'est ça.
Moi, je vous avoue que je trouve que ma vie privée n'a pas un intérêt suffisant pour la mettre sur l'écran.
Voilà, voilà. Non seulement, mais ni votre vie intérieure, puisque les films aujourd'hui sont faits essentiellement bourgeois ou pas, de la vie intérieure ou de ce qu'on appelle la fantasmagorie des réalisateurs. Alors, ce qui donne à ce que vous faites une force extraordinaire, c'est que, alors bon, pour prendre l'exemple des ombres, où on entre dans l'appartement d'une famille d'ouvriers, et on est tout de suite frappé par l'absence de clichés, c'est vrai, c'est-à-dire qu'aucun des clichés, ni celui d'avant-guerre, le style Gabin, Régent, ni les clichés marxistes-léninistes ou socialistes ou marxistes ne sont là. On voit vraiment des gens filmés sans aucun esprit ni de supériorité ni d'infériorité par vous. Parce que probablement, vous n'avez pas à vous poser la question qu'on se pose quand on est bourgeois et quand on va chez les ouvriers, puisque vous êtes vous-même d'origine ouvrière. Mais surtout, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que le personnage central, le personnage dont on parle le plus, et que finalement on voit beaucoup, qui est le personnage de la femme, qui change tout dans la vie de ce ménage. Là, je raconte l'histoire pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Dans la mesure où elle décide, à partir d'une certaine date, à partir du mariage de sa fille, de devenir une star du chant. Ce qui bouleverse complètement la vie familiale dans cet appartement. Eh bien, ce personnage, on se dit, mais quelle est l'attitude du réalisateur vis-à-vis d'elle? Est-ce qu'il la déteste? Est-ce qu'il épouse sa souffrance ou son envie d'en sortir? Il y a, de votre point de vue, quelque chose d'extraordinairement juste vis-à-vis d'elle qui fait que vous nous la donnez à voir, vraiment. Alors, moi, je voudrais savoir comment vous êtes parvenu à cette justesse-là. Qui n'est pas l'objectivité, hein, qui est autre chose, qui est, elle nous appartient autrement que nous appartiennent les personnages de cinéma ordinairement, qui nous sont donnés avec une sorte de mode d'emploi. Vous ne donnez aucun mode d'emploi de votre personnage.
Bah, vous savez, a priori, je trouve que les êtres humains, je trouve que la vie autour de moi est plus intéressante que la mienne. Et une des choses que je trouve, plus le temps passe et plus je trouve qu'il est très très passionnant d'observer les autres. Enfin, il faudrait quand même qu'on revienne un petit peu en arrière, hein. En ce sens que vous me posez une question qui m'embarrasse un tout petit peu, à laquelle je n'ai d'ailleurs qu'à moitié envie de répondre. Enfin, ma position, elle est claire, si vous voulez, ce qui est clair en ce qui me concerne. Enfin, tous ces gens-là, je les aime. Enfin, au départ, ce qui m'intéressait, c'était de faire une histoire, si possible. Enfin, je tiens à rappeler pour les spectateurs d'abord, enfin pour les auditeurs, que au départ il y avait des conventions, les conventions
oui, alors,
dans la série.
Oui, vous avez
la
raison,
convention.
Jean-Claude Bresson de rappeler qu'il s'agit d'une série de l'INA qui s'appelle la télévision de chambre et qui supposait que vous tourniez dans un lieu unique. Hein, c'est ça.
Voilà, il y avait plusieurs contraintes. Il y avait le lieu unique, d'une part. D'autre part, il fallait que ce lieu soit en partie ressort de l'action. Troisièmement, il fallait que le budget soit très petit. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est moi qui ai le plus petit budget de tous ceux qui viennent derrière. Alors j'ai essayé de donner un sens à tout cela. Et il a fallu que je me débrouille quand même pour arriver, compte tenu des réalités concrètes dont j'aimerais bien dire deux mots, si possible, après, il a fallu que je me débrouille avec ça. Alors en ce qui concerne les conventions, j'ai essayé de les utiliser en leur donnant un sens. Moi, j'ai une conception selon laquelle je trouve que la plupart des êtres humains, moi-même, nous tous, on vit dans une sorte de monde qui est très très proche des illusions. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qui se passe lorsque les illusions tombent et ce qu'on découvre après. Et une des choses que j'aurais bien aimé, enfin qui m'intéressait dans le film et dans le traitement de ce personnage central, c'était, je sais bien, une femme comme ça qui a 35, 37 ans, qui laisse tomber ses mômes, qui laisse tomber tout le monde parce qu'elle veut devenir vedette de la chanson, a priori, les gens vont la trouver très déplaisante et très antipathique.
D'autant que Jean-Claude Bristow, j'ajoute que votre dialogue est écrit avec une honnêteté rigoureuse. Et que, par exemple, ce qu'elle dit au personnage masculin quand elle s'explique dans la seule grande scène d'explication qui a lieu entre eux et qu'elle lui dit à quel point elle a dû supporter pendant des années sa présence comme une souffrance, peut la rendre encore plus antipathique que vous ne dites. Enfin, dire, peut la rendre, mais elle n'est pas. C'est ça qui est étonnant dans votre film.
Ça, je sais que c'est, enfin, tout au moins pour cette séquence-là, une des choses qui m'intéressait beaucoup, c'est d'arriver à ce que, vous voyez, enfin, on se rattache à mon problème, on se ramène au problème qui était le mien. À savoir, qu'on ait une position moins claire qu'habituellement sur les personnages. C'est-à-dire, je savais que la fille allait être antipathique dès le départ. Je savais surtout que le jeu de la comédienne allait accentuer ce problème. Et je voulais absolument qu'ensuite, elle devienne plus pathétique. Entre autres, parce que le spectateur... Ce que je voulais également, si vous voulez, c'est que le spectateur ne prenne finalement... Au départ, il est obligé de prendre parti pour tel ou tel parce que les gens projettent. Mais ce que je voulais, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, si le spectateur pénètre à l'intérieur de la vision qui est la mienne, il éprouve une sorte de recul et qu'il n'ait plus envie de compter les points, mais qu'il voit des gens qui se débattent à l'intérieur de leurs propres problèmes, de leurs propres souffrances, et qui se débrouillent comme ils peuvent pour arriver à s'en sortir, d'ailleurs en cherchant, à mon avis, des voies totalement illusoires. Je ne sais pas si je réponds à votre question, j'y réponds en partie à côté. Mais c'est un petit peu à dessein, je vous l'avoue.
Non, pourquoi ? Il y a un élément autobiographique là-dedans ?
Non, aucun. Non, il n'y a strictement aucun élément autobiographique. Vous avez... Non, à dire vrai, si vous voulez, vous m'ennuyez. Voilà pourquoi vous m'ennuyez, si vous voulez.
Ah non, mais je tiens pas.
Entre autres, c'est parce que mon problème a été... Bon, une chose, si vous voulez, de prévoir d'écrire un film. Une autre chose, c'est de voir la réalisation. Par exemple, quand on a tourné, le film coûte, je sais bien, les auditeurs, ça ne leur dit pas grand-chose, le film a coûté 62 millions anciens. Film terminé.
Ce qui est très, très, très peu pour un film.
Voilà, ce qui est les autres de la série y ont au moins 50% de plus, parfois même le double. Et il faut savoir aussi quelles sont les contraintes de la télévision. Par exemple, il faut savoir que sur 8h ou 7h30 de tournage théorique, on déduit les temps de travail, même fictifs. Là, en l'occurrence, les temps de travail étaient fictifs, c'est-à-dire qu'on a une semaine de travail objectif de 30 heures, facturée 40. Or, quand on est débutant comme moi... On ne permet pas, il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Et j'ai eu, par exemple, il faut se débrouiller. Si j'avais dit, par exemple, j'avais décidé au départ que tout le monde serait au service des acteurs et qu'on les suivrait au maximum. En fait, la réalité était telle qu'il fallait se débrouiller avec ce qu'on avait. On tournait, heureusement qu'on avait un petit peu répété au départ et que j'avais travaillé avec eux. Mais il y a eu une réalité concrète qui était celle qui se déroulait pendant le moment de la prise. Il n'était pas question d'en faire plus, parce que si jamais il y avait un moment de dépassement, un ou deux, les gens risquaient de me dire « non, j'arrête, on ne tourne plus », ce qui s'est produit une fois. Et du même coup, si vous voulez, il fallait que je tienne compte du sens que les choses prenaient au fur et à mesure en accommodant. Et j'avais une idée, je voulais que cette idée subsiste. Et je me suis débrouillé, si vous voulez, pour accommoder la réalité, pour m'accommoder à la réalité et pour que le film, que les idées de départ subsistent à l'arrivée. J'espère, à dire vrai, quand vous me dites ce que vous me dites, je pense que ça a l'air de...
Ah non, mais pour ce qui est du fil du rasoir, vis-à-vis des personnages, et en particulier vis-à-vis du personnage de la femme, on est continuellement sur le fil du rasoir à son égard et... C'est pas du tout une ambiguïté du type nuance.
Oui.
C'est une ambiguïté qui est la bonne. C'est quand, parce que moi je pense pas que la vérité soit dans la nuance, j'ai toujours pensé qu'elle était dans la rencontre des excès. Mmh. Or, c'est dans la mesure où elle est excessive que d'odieuse elle devient pathétique. Voilà.
À dire vrai, c'était une des choses qui m'intéressait furieusement, justement. Et entre autres, c'était le moyen. D'essayer, enfin, quand je faisais ça, comme je vous le disais au départ, je ne voulais pas faire un conte de fées, c'est-à-dire transformer cette histoire de manière à ce que tout le monde soit content. Et je voulais donc renvoyer une image peut-être déplaisante à chacun de nous, mais mon problème était que, malgré tout, enfin, d'une part, que ce ne soit pas ennuyeux pour les gens, c'est simple à dire, mais ce n'est pas si facile à expliquer. Mon problème était donc d'arriver à rendre une image, de ne pas faire un conte de fées, mais de se débrouiller pour que quelque part le spectateur trouve un certain plaisir quand même. Ce qui n'est pas une évidence. Et en ce qui concerne le personnage de la femme, c'est là qu'il y avait des difficultés réelles. Il est vrai que par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que par contre, le personnage du mari, lui qui a l'air, il a le beau rôle dans l'affaire, mais j'aimerais bien que quand on y réfléchisse, on s'aperçoive que les choses ne sont pas si simples que ça, et que tout le monde, enfin, s'il est question de mettre de la culpabilité dans tout ça, alors que j'aime pas beaucoup parler en termes de culpabilité, moi, ou de... J'aimerais qu'on se rende compte que rien n'est simple nulle part, aussi bien du côté de la femme que du côté du monsieur, du côté de personne.
Bon, alors Jean-Claude Brissot, tout de même, parce que si on oublie un peu la femme, encore qu'elle soit centrale, et le mari, il y a tout de même quelque chose qui fait que, sans vous accuser de projeter votre propre fantasmagorie sur vos personnages, chose auquel je ne pense pas une seconde, ni dans votre premier film, La vie comme ça, ni dans Les ombres que nous avons vues vendredi soir, il y a tout de même quelque chose... qui est vrai, c'est que chaque cinéaste a un don particulier pour filmer un sentiment particulier. Je pense que, pour prendre un exemple lointain, américain, Borzage par exemple, qui est un des rares cinéastes au monde à savoir filmer le bonheur, qui est une chose extrêmement difficile à filmer. Or, vous, il semblerait que vous ayez un don tout à fait particulier pour filmer la souffrance. Et je voudrais en prendre un autre exemple dans le film, dans un personnage qui, lui, est totalement sympathique, dans la mesure où il est complètement désarmé, dans la mesure où il n'est que pathétique. C'est le personnage de l'ami du protagoniste, qui est d'ailleurs joué par quelqu'un qui jouait le gardien,
le
concierge dans l'immeuble de La Vie comme ça, qui est un personnage... Bon, je voudrais savoir d'abord, est-ce que c'est un comédien ?
Écoutez, c'est mon oncle. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui a travaillé en usine pendant 60 ans et il avait pris les cours de comédie quand il avait 30 ans. Mais enfin, c'est pas un comédien professionnel, non. C'est un type qui travaille en usine.
Bon, alors, il se passe. Alors là, il se passe dès qu'il apparaît sur un écran et dès qu'il se met à parler, dès qu'il se met à vivre. Il est plus étonnant que n'importe quel comédien parce qu'il a ce qu'avaient les comédiens français d'avant-guerre, c'est-à-dire qu'une singularité dans la diction, dans la manière d'être, dans les gestes, qui fait que on est complètement à la fois entre le rire et les larmes avec lui. Bon, alors vous n'hésitez pas dans ce film où il apparaît dans des scènes comme ça où il est relativement son destin est relativement anodin, et puis soudain il y a une scène étonnante où il se confie complètement, où il confie un passé très lourd, et où soudain, il devient, alors lui, franchement, un être souffrant et qui n'a plus qu'une solution, c'est de raconter sa souffrance pour l'exorciser, d'une certaine façon.
Et encore parce qu'il a de la chance, parce que... oui, enfin, c'est exact, oui. C'est alors, tout à fait exact, oui.
Bon, alors, moi, je voudrais savoir pourquoi vous avez ressenti le besoin d'inclure à la fois ce personnage et cette scène qui pouvait déséquilibrer le restant du film.
C'est exact. A priori, d'ailleurs, au niveau du scénario, cette scène n'a strictement rien à voir avec tout le reste. Si l'incidence, si vous voulez, au niveau d'un point de vue dramatique, elle donne quand même un certain nombre de renseignements, à savoir qu'on comprend... Elle donne un seul renseignement, quand même. Le personnage... on doit quand même comprendre que le père de famille... est un homme qui, malgré tout, écoute la souffrance d'autrui.
Voilà, oui, d'accord.
Bon, ça, c'est un renseignement important. C'est un renseignement d'autant plus important que sinon, on comprendrait... ça donne au moins un renseignement sur le comportement que le père de famille a vis-à-vis de sa femme. C'est-à-dire que c'est malgré tout un être tolérant qui écoute. Bon, ceci dit, il y avait une autre raison. Vous avez dit, ce qui m'intéresse entre autres, c'est qu'on ne sache pas trop parfois si on doit pleurer ou si on doit rire. Il y a une sorte d'équilibre qui m'intéressait là, parce que je trouve entre autres qu'il est... Je vais employer un mot qui ne correspond pas tout à fait. Hein. Mais je trouve que... une des choses qui m'intéresse, c'est dans la peinture de la souffrance, c'est la pointe de bouffonnerie qu'il peut y avoir de temps en temps et qui donne, à mon avis, un sens plus tragique à la souffrance. Une troisième chose qui... Or, il y a une autre chose qui m'intéressait dans cette histoire, c'était la suivante. Encore une fois, ça m'embête. Le sens de la présence de ce personnage, c'est quand même lui et sa souffrance qui donne le sens à l'ensemble. Parce qu'on y voit un type... qui est là en train de souffrir, qui pleure, mais qui souffre authentiquement. D'ailleurs, permettez-moi cette parenthèse, j'espère d'ailleurs que c'est... Là, j'ai pris peut-être une certaine audace en collant une séquence qui dure 2 minutes et demie en plan séquence, sur petit écran, enfin bref, un plan séquence de 2 minutes, 2 minutes et demie, avec un discours qui n'est pas linéaire, parce que le type pleure, il commence à raconter un truc, et puis s'arrête, et puis il reprend dans un autre sens.
Non, je m'en billet qu'on n'en perd pas une seconde. Hein.
Enfin, j'espère. Enfin, ce qui m'intéressait quand même, et si je l'ai mis, et en tant que parenthèse dans le film, c'est parce qu'en fait, il résume assez bien ce que j'ai voulu mettre dans le film, à savoir des gens qui souffrent, entre autres, parce qu'ils sont complètement captivés. Alors, c'est vrai que je vais peut-être... Ils sont captivés, entre autres, par une certaine idée qu'ils ont de la réalité. En effet, ce type se met à chialer, se met à pleurer, mais il pleure et il souffre authentiquement. Parce qu'il s'aperçoit que la mère à laquelle il était si attaché n'est pas sa mère réelle, autrement dit que l'image qu'il avait de sa mère ne correspond pas à cette réalité. La découverte de ça le met dans un état de souffrance considérable. Or, une des choses qui m'intéressait quand même, c'était de voir des gens dans ce film qui sont totalement prisonniers de l'idée qu'ils se font, enfin, d'une certaine idée qu'ils ont d'eux-mêmes ou des autres. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir justement, entre autres, comment les gens souffrent quand quand ces idées, quand les illusions également qui vont de pair avec ces idées s'effondrent.
Bon, alors Jean-Claude Brissot, vous avez prononcé le mot illusion comme négatif à plusieurs reprises au cours des entretiens. D'un autre côté, vous m'aviez dit que quand vous étiez jeune, vous aviez plutôt envie d'aller voir les films nourris d'illusoires, en tout cas,
oui,
et fictifs. Or, bon, alors là, c'est une question moi qui me passionne parce que j'ai pas de réponse. Est-ce qu'une certaine dose de fiction ou d'illusion ne fait pas partie thérapeutiquement, enfin je ne sais pas, d'une vie possible. Enfin, est-ce que vous connaissez la phrase de Céline qui me paraît essentielle dans ce domaine, et pour le cinéma, c'est il faut choisir mourir ou mentir. Je n'ai jamais pu me tuer, moi. Il semblerait que vous ayez beaucoup de mal à mentir, ou à vous. Enfin, en tout cas.
Ah, écoutez, ça, en ce qui concerne. Je ne sais pas comment je mens dans la vie, mais une des choses. Ça, c'est un autre problème. Je suis comme tout le monde. Par contre, j'essaye, malgré tout, dans les films que je fais, d'avoir une certaine honnêteté. Et j'avoue qu'une des choses, quand même, qui fait partie de mes préoccupations, c'est une certaine exigence de lucidité. Or, la lucidité, et le fait d'être capable de regarder le monde tel qu'il est, je dis bien tel qu'il est, c'est probablement un des degrés. Enfin, c'est très difficile à accéder à cette possibilité. Pour en revenir à ce que vous dites, il est vraisemblable qu'une part de fiction, une part d'illusion est nécessaire. La preuve, c'est que quand on n'a pas ces illusions et qu'on souffre. En ce qui concerne, par exemple, le cinéma, il est évident que c'est d'une grande évidence, dans la mesure où le public a besoin de fiction, il a besoin de rêve. Si le cinéma a une fonction de rêve incontestable, les salles sont remplies de films dans lesquels qui ont cette fiction de rêve. Et c'est le spectateur, a priori, s'il n'a pas envie d'aller voir les films qui lui renvoient qui sont un petit peu lucides, c'est parce que, justement, il a besoin de fiction et de rêve.
Oui, mais alors, on sent bien que votre point de vue sur la vérité ou sur la réalité est un point de vue moral. Ce n'est pas du tout un point de vue de copiste. Parce qu'on voit beaucoup à la télévision, en particulier dans ce qu'on appelle des docudrames, ou dans des films qui cherchent à être la lisière de la réalité et de la fiction, et qui sont très très scrupuleux dans la peinture et dans la traduction de réalité ouvrière, de réalité paysanne, on voit quelque chose qui est de l'ordre de la copie. On voit ces personnages dont Renoir nous parlait quand il disait « Je ne vois pas pourquoi on montrerait au cinéma des gens que je peux rencontrer dans un café, parce que je préfère aller dans un café, parce qu'au moins on peut consommer. » C'est-à-dire, vos personnages sont des personnages de la vie, de la réalité, mais ils ont quelque chose en plus.
Oui, mais...
cette intensité d'être, de présence qu'ils ont sur l'écran, comment est-ce que vous l'expliquez à vous-même?
Bon, soyons clairs.
Non, question de talent mise à part. Il n'y a pas que l'honnêteté, je pense.
Non, mais entendons-nous quand même. Moi, je pense que c'est vrai que là, les deux films dont il s'agit s'articulent sur une réalité sociale très précise. Mais moi, je pense que, si vous voulez, pour moi, la réalité sociale, c'est pas tout. Ce qui m'intéresse, c'est lui donner un autre sens par derrière. Et une des choses quand même qui m'intéresse, moi, c'est une interrogation sur le sens de la vie et sur le monde et les êtres qui vivent. Alors, je sais que j'ai toujours essayé de leur donner, moi, une vision, une touche un peu personne, une autre, si possible, une autre dimension que cette dimension réaliste. Mais sans quoi, d'ailleurs, je pense, d'ailleurs, j'ai pas voulu que Les Ombres soit un film naturaliste ou réaliste, parce que je pense en substance que, d'ailleurs, le problème que traverse ce couple, qui par ailleurs là est d'origine ouvrière, en fait, il est commun à tous les gens. Là, je fréquente d'autres gens dans le monde du cinéma, à dire vrai, que je vois maintenant, sont peu différents du couple d'ouvriers qui est là. Ils ont d'autres moyens, une autre existence, mais en profondeur. Sur cette quête des illusions, il n'y a pas une différence fondamentale. Alors maintenant, en ce qui concerne la question, parce que là j'y réponds encore à côté, vous m'embarrassez parce que...
De toute façon, il y a une référence qui est complètement évidente à la fin de votre film, qui est la référence au livre de Bernanos et au film de Bresson. C'est le « qu'est-ce que cela fait puisque tout est grâce ?» Donc, est-ce que c'est un sens absolument chrétien, ou bien est-ce que c'est un sens... plus...
Non. Bah, vous savez, c'est simple. Hein. Enfin, c'est simple. Moi, je pense, enfin, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que la plupart des êtres, que nous tous vivons dans un monde d'illusions. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe lorsque les illusions tombent. Alors, je vais schématiser un petit peu à l'extrême. Quand les illusions tombent, ou bien on substitue une illusion à une autre, peut-être en s'assumant un petit peu plus, mais qu'est-ce qui se passe à la fin ? Alors, où à la fin, on découvre un certain vide. Mais ce vide, ou bien c'est le vide et peut-être que les gens poussés par la souffrance ont envie de se foutre en l'air, ou bien ils découvrent, ou alors à ce moment-là, ce vide, cette absence d'illusion, quand on pense plus, quand on découvre autre chose. Il y a peut-être une solution mystique. Et c'est d'ailleurs le sens, j'espère, à pas avoir été trop lourd.
Jean-Claude Brissot, une solution mystique, je veux bien, mais enfin, ça se situe étrangement, pour moi, et j'ai été très surpris par la fin de votre film d'une certaine façon, mais en même temps, comblé, puisque, après tout, c'était là que ça devait aller. Mais il est normal que je sois surpris. Mais dans l'idée de consentir, et dans l'idée de tout est grâce, on est entre le journal d'un curé de campagne de Bresson et le fleuve de Renoir. C'est-à-dire que Renoir, c'est le paganisme, en tout cas, c'est l'hindouisme, c'est l'Orient, c'est l'idée de pas d'une acceptation, mais d'un consentement à soi, à l'autre, etc. Et qu'est-ce que cela fait, puisque tout est grâce ? C'est le dernier mot du curé d'Hambricourt.
C'est exact, oui.
Alors, vous êtes entre les deux, vous ?
Entre les deux, je ne sais pas. J'aime pas me situer géographiquement, mais pour moi, ces deux choses ne sont pas contradictoires. Ce serait même plutôt complémentaire.
Mais vous avez été conduit là, récemment, ou bien par... par votre culture, par une tradition, par le cinéma, par...
J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Vous savez, je vais vous faire une réponse qui, à mon avis, sera probablement d'une bête évidence. C'est par l'ensemble de mon passé, de ce que j'ai vu, de mes expériences. Et puis, vous savez, ça m'embarrasse d'analyser parce que, pour parler franc, je vais vous dire plusieurs choses. Ce qui me frappe... Bon, j'ai fait un certain nombre de films maintenant. Ce qui me frappe, c'est que je ne suis pas toujours conscient de ce que j'y mets. Je veux dire par là que, entendons-nous, il y a un certain nombre de choses que j'y mets de façon parfaitement consciente, que j'essaye de maîtriser le mieux que je peux en accommodant. Mais par contre, ce qui me frappe, c'est que quand je regarde les choses que j'ai pu faire après coup, j'y vois des choses que j'y ai mises alors que je ne l'ai pas fait exprès. Ce qui impliquerait qu'il y a une sorte d'inconscient qui parle.
Vous pouvez donner un exemple, dans Les Ombres par exemple ? De choses qui vous aient réellement échappé. Mais remarquez, ça, je trouve que c'est normal. Enfin, toute création suppose que les choses vous échappent, non ?
Je peux vous répondre, mais ça va me ramener à la question que vous me posiez tout à l'heure et qui est liée au personnage de l'actrice, qui est joué par, enfin, au personnage de la femme qui veut chanter. C'est vrai que le tournage n'a pas été tout à fait ce que j'aurais voulu. Mais c'est vrai aussi que quand je vois le film terminé, pour parler franc, moi, il n'y a guère que 3-4 minutes en ce qui concerne le jeu de l'actrice qui me donnait satisfaction. Apparemment, il y a 3-4 minutes dans le moment, dans la grande scène d'explication entre eux. Le reste, ce n'est pas ça que je voulais. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu le sens que ça obtenait. On en a discuté. J'avais pas le temps de faire autrement, et j'ai adapté en fonction du sens que ça a donné, en fonction du sens que le tournage, la réalité concrète du tournage prenait, et sur lequel j'avais apparemment peu de prise. Enfin, si j'en avais, mais pas ce que je. Bon. Toujours est-il que ce qui est frappant, c'est que quand je vois le sens global du film, c'est malgré tout ce que le sens que j'avais au départ. C'est-à-dire quand j'ai écrit le scénario, c'est ça que je voulais faire. Et puis j'ai changé d'avis, mais curieusement, la pratique a été qu'on est revenu à ce que je voulais faire primitivement, en particulier avec elle. Avec elle, le jeu, en gros, je schématise un petit peu parce qu'il faudrait rentrer dans le détail, en gros, elle a peut-être inconsciemment fait ce que je lui demandais, peut-être. Et je sais que du même coup, également, le sens global que je voulais donner au film, si vous voulez, ça correspond, enfin... Apparemment, je ne suis pas content. Mais je suis bien obligé d'admettre, il y a beaucoup de choses dont je ne suis pas content là-dedans, dans le film.
Non, mais c'est très étonnant, parce que ce que vous dites là est totalement passionnant, parce qu'on est vraiment dans le creuset de la création cinématographique. que vous, en plus, vous découvrez, puisqu'après tout, vous n'avez pas une expérience très grande. Et en même temps, à travers ce que vous dites et à travers ce qu'on sait du film, si on l'a vu, et depuis qu'on vous écoute tout à l'heure, on découvre quelque chose qui est de l'ordre de la violence et qui est au service, d'où ma surprise, qui est cette violence est au service de quelque chose qui est exactement le contraire de la violence et qui est la fameuse acceptation finale. Alors bon, c'est dans cette contradiction-là que vous circulez, je suppose, aussi bien dans votre vie et qui vous amène à faire des films.
Oui, ça, c'est une évidence. Enfin, dans la mesure où j'ai la chance de pouvoir en faire, il est évident que...
Mais c'est une chance qui est née. Enfin, vous rendez bien compte que des quantités de gens ont fait des films d'amateurs. C'est que donc il y avait quelque chose dans ce que vous faisiez. Moi, je n'ai pas vu votre film en 8 mm. On m'en a dit du bien. Jean Collet, qui est à l'origine du projet de la télévision de chambre, on m'en a dit du bien. C'est qu'il y a dans ce que vous faites, justement, c'est cette force et cette violence qui vous a permis d'avancer, de faire du 16 mm, puis des cinémas et de la télévision professionnelle. Mais on a l'impression qu'elle vous fait peur, cette violence.
Enfin, qu'elle me fait peur, non.
Cette affirmation de vous.
Non. Enfin, excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que je ne suis pas sûr de vous comprendre très bien.
Bon, écoutez. Non, mais, on était parti de l'idée que vous circuliez entre une violence très, très nette dans la vie comme ça.
Oui, non, mais je comprends mieux ce que vous
dites. Et dans un point de vue violent sur le monde.
Bah oui, c'est un fait que la réalité est violente. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une des choses que. Enfin, là, j'ai la chance de pouvoir faire un film pour le cinéma. Et ce sera le thème du film. Le thème du film étant. C'est une sorte de. Écoutez, c'est pas une interrogation qui il n'y a pas moi. Tous les philosophes, je prenais des gens comme Dostoïevski, par exemple, qui étaient en train de se dire, tout bêtement, je schématise un peu à l'extrême, mais si un Dieu existe, comment se fait-il qu'il ait pu tolérer la violence, la mort des enfants innocents? Quand on regarde le monde autour de soi, on vient à un monde de violence, pas uniquement, de tendresse et d'amour également, auquel je crois. Mais la violence, elle est là. Il y a des gens qui se massacrent, il y a des gens qui j'ai vu l'autre fois à la télévision, il y a de ça quelques mois, des images de torture infligées à des enfants. J'ai vu ça dans les actualités Antenne 2 à 8h, entre 8h et 8h30. C'était à l'occasion d'un forum, je crois, d'Amnesty International, dans lequel on voyait des tortures absolument effrayantes exercées sur des enfants, des femmes, sur tout le monde. Ça existe. Et c'est un fait que je m'interroge sur ces problèmes de violence. Violence que je retrouve, moi, dans. Nous avons le privilège. Enfin, j'estime quand même que c'est un privilège dans les pays relativement développés d'arriver à pouvoir s'extraire au moins en partie de cet état de violence qu'on a connu jusqu'à présent. Or, on le retrouve d'une autre façon détournée. Écoutez, je parlais de Bagnolet, c'est-à-dire de mes élèves. Mais c'est quand même. Je vais vous donner une autre anecdote. J'ai eu la chance, je voulais aller à New York depuis longtemps, il y a un an et demi, je suis allé à New York, passer une semaine, j'y étais jamais allé. C'était mon rêve cinéma américain, je voulais aller à New York. J'ai circulé sans arrêt à pied dans New York. J'ai découvert d'ailleurs, alors là, ce que je découvrais à Bagnolet, je l'ai découvert à New York sur une grande échelle et de façon systématique. Or, j'étais en train de discuter, je m'attendais, moi, dans New York, à tomber sur deux quartiers, j'y suis allé en été, hein, à un ou deux quartiers violents, mais le reste, une belle ville comme je voyais au cinéma. C'est le contraire que j'ai trouvé. Et je voulais aller à Harlem et dans un autre quartier. Et il y a un mieux. Alors je me suis adressé à un monsieur qui était là. Il me dit, mais enfin, bon sang de bonsoir, pourquoi vous voulez aller dans ces coins-là? Vous êtes français. Si vous allez en Afrique, juste à côté de chez vous, vous trouverez ce que vous allez trouver à New York, là, dans ce coin-là, vous l'avez à deux pas de chez vous. Alors c'était franchement pas la peine de venir à New York pour retrouver ça. Mais ce qui est quand même assez effarant, c'est que New York est la ville la plus importante du monde. Enfin, du monde occidental, du pays le plus riche du monde, on retrouve exactement cette même réalité avec cette même violence que dans les pays sous-développés. Bon, ce qui veut dire que cette violence, qu'est-ce que vous voulez, elle est là. L'horreur du monde, elle est là. Et c'est pas la peine de. Et moi, je vous avoue que, comme je pense que si j'écoute les discours mystiques qui disent que le monde est magnifique, je suis bien obligé de me demander, le monde est magnifique, c'est possible, je le ressens. Mais il faut bien intégrer cette violence-là. Ou alors, c'est que nous ne savons pas la voir. C'est qu'il y a une autre réalité derrière ça. Alors, du même coup, ce sont mes problèmes.
Là, vous m'avez très, très, très bien répondu. Alors, bon, vous avez cité Dostoïevski, alors il me semble que là, c'est la bonne référence. Non, c'est peut-être quelqu'un dont vous êtes nourri.
Non, je ne me suis pas nourri de Dostoïevski, mais en découvrant, je le découvre maintenant, j'avais lu quand j'avais 15-16 ans, en le redécouvrant maintenant, je trouve ça passionnant.
Parce qu'il y a quelque chose que Dostoïevski dit et qui me frappe terriblement. Et attendez, je ne voudrais pas citer, je ne voudrais pas dire de bêtises. Même si Jésus-Christ n'était pas la vérité, je serais du côté de Jésus-Christ plutôt que la vérité.
Moi, c'est dans les possédés,
je crois. Écoutez, je ne t'ai pas lu. Mais... Il se trouve que nous sommes à France Culture. Et que je l'ai écouté un jour dans une émission de France Culture sur Dostoïevski. Même ça, il me semble que ça devrait vous toucher, une phrase comme ça.
Oui, elle m'intéresse tout au moins. Mais qu'elle me touche, j'en sais rien, mais qu'elle m'intéresse, oui, c'est certain.
Alors, est-ce qu'on peut vous interroger un peu sur ce film sur ce film que vous préparez? Parce qu'actuellement, en fait, vous êtes en préparation. Vous êtes déjà, on oublie toujours quand on interroge un réalisateur, vous continuez à exercer votre métier d'enseignant. Et en plus, vous préparez un film qui va se tourner bientôt.
Ce qui est quand même assez fatigant. C'est-à-dire que depuis, c'est assez fatigant, oui. Oui, je prépare un film, là. J'ai eu la chance d'avoir l'avance sur recette. J'ai un producteur. Je disposerai d'un budget qui sera petit par rapport aux films qu'on fait habituellement. Mais moi, ça me fait... Enfin, disons que je pense que la plupart des films coûtent beaucoup, beaucoup trop cher et qu'en fait... La vérité est quand même que le cinéma est une industrie de luxe et qu'on peut très bien faire avec un petit peu moins que... Il y a quand même une grosse part de gaspillage dans le cinéma habituellement. Enfin, là, c'est pas le propos.
Vous le tournez en 35. Vous êtes parti du 8 pour arriver au 35.
Oui, si tout marche bien, je tournerai ça pendant l'été.
Merci, Jean-Claude Brissot. Je rappelle que nous avons vu votre film « Les ombres » sur TF1 et que nous verrons bientôt l'échangeur sur Antenne 2 à l'intérieur des contes modernes
sur l'enfance, oui, c'est
le 17 mai,
je crois.
Bien, alors on vérifiera. Mais alors, pour ce qui est du cinéma des cinéastes, l'émission de la semaine prochaine sera selon toute probabilité consacrée à Fritz Lang, dont M. Le Maudit vient de ressortir, et surtout nous allons avoir sur les écrans parisiens une copie tout à fait magnifique, neuve et complète, enfin aussi complète que possible, Des Espions, qui est un film admirable de Lang de 1928.